Albert Robida, Le voyage de Monsieur Dumollet, chapitre 1, Doux projet d'Hyménée. Pour un charmant jeune homme, certes en cette belle année 1800, Monsieur Narcisse Dumollet était un charmant jeune homme, et cela malgré ses 39 printemps et ses 40 automnes. Cette collection de printemps et d'automne n'est pas portée si facilement par tout un chacun. Les uns blanchissent, les autres, dès leur majorité, arborent des crânes à faire rêver les professeurs de billard. M. Narcisse Dumollet était resté tel qu'à l'âge tendre de 18 ans, un très charmant jeune homme. On pouvait le trouver un peu gros, un peu joufflu, mais il tenait cela de naissance. Venu au monde bien portant, il avait tenu à rester bien portant. Il n'était ni gris, ni blanc, ni chauve, vu que, presque de naissance encore et par coquetterie, il portait perruque. Une perruque artistique due au talent d'un illustre perruquier de l'Ancien Régime, qui vous perruquait les hommes, non pas n'importe comment, au hasard de l'inspiration ou suivant les caprices de la mode, mais bien d'après les caractères et les âmes. Aussi l'illustre perruquier, observateur, ayant deviné chez Dumollet une âme candide et guillerette, avait orné le front de son client d'une perruque candide et guillerette. Du reste, disons-le tout de suite, pour la postérité anxieuse de connaître les traits de Narcisse, Dumollet, il doit exister quelque part dans les greniers du Louvre un portrait de ce grand homme, dû au magistral pinceau de Jean-Baptiste Pinxit, élève de David, prix de Rome en 1811, l'année de la comète. Si le grand Pinxit consentit en 1815 à interrompre une mort d'Épaminondas pour entreprendre la rage au cœur, la reproduction des traits peu classiques de M. Dumollet, moyennant 60 francs plus 12 francs de couleur, ce fut parce que les guerriers grecs et romains commençaient à se sentir sérieusement atteints par le marasme et qu'ils communiquaient ce marasme aux finances de l'artiste. Bien des fois, pendant la confection du portrait de notre héros, le grand Pinxit eut la double coupable tentation de saisir un des glaives romains accrochés aux murailles de son atelier pour en percer le sein de l'innocent Dumollet. Mais il résista, les 60 francs n'étant pas payés d'avance. Au doux mois de mai 1800, M. Dumollet, malgré ses 39 printemps, malgré son poétique prénom de Narcisse, était encore célibataire, mais il ne l'était plus pour longtemps. À plusieurs reprises déjà, sa main avait été sollicitée par des demoiselles ou dames de la bourgeoisie parisienne ou provinciale, sans que Dumollet ait réussi à se décider à temps. Toujours par la faute de son caractère légèrement timide et tout à fait irrésolu, il avait dit oui trop tard, parfois juste 3 mois après que la demoiselle en avait épousé un autre. Mais cette fois-ci, c'était sérieux. Le mariage, décidé depuis 2 ans, se ferait. Il y avait eu échange de portraits. M. Dumollet, ne pouvant adresser à sa future le portrait de Pinxit, trop encombrant, avait envoyé son profil en silhouette, découpé à la lueur d'une lampe par un artiste amateur, et le père de la jeune fille avait répondu par l'envoi d'une délicate miniature. Les deux fiancés se convenaient. Il n'y avait plus qu'à partir pour Saint-Malo, car la fiancée de Dumollet, sa jeune cousine Estelle Valsouzon, habitait cette cité fameuse, mais éloignée. Là était la difficulté. Dumollet ne se sentait pas né pour les grands voyages. Il n'eut jamais songé à découvrir l'Amérique ou à chercher si oui ou non il y a un pôle Nord. La lecture de l'histoire des naufrages dans les soirées d'hiver lui suffisait. Toutes les émotions, les impressions et sensations des grands navigateurs, celles des naufragés ballottés sur des radeaux, et celles des explorateurs mangés par les sauvages, ils se les donnaient ainsi, sans danger ni peine. Il était donc fort casanier, bien qu'absolument libre de sa personne, de par sa qualité de rentier jouissant d'un respectable revenu de 1800 francs, qui lui permettait d'habiter un joli petit appartement de garçon à deux pas du boulevard et de cultiver en toute tranquillité un délicieux talent de flûtiste. Oh, sa flûte! Quel succès lui avait déjà valu dans le monde! Dans ses plus lointaines excursions, Dumollet n'avait jamais été plus loin que le sauvage bois de Boulogne ou que le village de Montmartre, perché au nord de Paris, sur une montagne couronnée de pittoresques moulins à vent. Au-delà, pour M. Dumollet, c'était l'inconnu, l'étranger, presque les pays sauvages. Certainement, chaque jour, des diligents, des coucous, des patates, des berlines, des malpostes emportaient vers ces contrées inconnues de hardis voyageurs et même des voyageuses. Mais Dumollet frémissait à la seule pensée de s'embarquer dans ses véhicules pour voguer du côté des rivages bretons. Et cependant, là-bas, Estelle, depuis 2 ans, s'ennuyait peut-être. Enfin, depuis quelques mois, Dumollet, faisant appel à tout son courage, avait pris une résolution. C'était décidé, il partirait. Pendant tout l'hiver, il avait tenu conseil avec ses amis, instrumentistes amateurs, qui se réunissaient chez lui tous les soirs pour charmer les voisins par une grande consommation de musique de chambre. Mais que faire? Quel moyen de locomotion employer pour gagner Saint-Malo? Fallait-il se risquer, prendre l'horrible diligence où l'on est si mal, où l'on est secoué, moulu, brisé, étouffé, abîmé, où l'on dort si peu, ce qui n'est pas amusant, où l'on mange si mal, ce qui est épouvantable, et qui vous débarque à destination à l'état de colis avarié, lorsqu'elle ne vous a pas brusquement réduit en miettes ou aplati comme une galette, en vous versant dans les précipices des montagnes ou sur le dur pavé des routes. Justement, l'un des amis de Dumollet avait tout dernièrement versé 2 fois dans un seul unique voyage à Meaux-en-Brie. Il était sorti à peu près intact de ces 2 accidents, mais Dumollet s'était livré à un calcul. À 2 dégringolades pour 10 lieues, cela faisait jusqu'à Saint-Malo 16 dégringolades et autant pour revenir. Pouvait-il espérer sortir sain et sauf des 32 dégringolades? Cela était fortement douteux. Aussi, après mûre réflexion, après avoir interrogé bien des postillons dans la cour des messageries, Dumollet avait renoncé aux diligences, était décidé à partir pour Saint-Malo, tout simplement sur un âne, façon de voyager plus lente peut-être, mais beaucoup plus sûre. Restait à trouver l'âne. C'était le moins difficile. Dumollet en avait un parmi ses connaissances, pour même dire ses amis. Qui n'a pas dans ce monde au moins un âne parmi ses amis? Cet âne, ou plutôt cet ami, s'appelait Coqueluchon et habitait Montmartre, le charmant village montagnard voisin de Paris, avec M. Florival, son maître, autre ami de M. Dumollet. Tous deux étaient musiciens et rentiers. M. Florival était très savant sur le flageolet et Coqueluchon, mélodiste forcené, qui aimait à s'entendre braire musicalement, réjouissait du matin au soir tout Montmartre de ses morceaux joyeux. Dumollet s'en fut trouver ses 2 amis là-haut dans la montagne, au-dessous des moulins qui battaient gaiement de l'aile au grand soleil sous la douce brise de mai. Florival soupira à la pensée de se séparer momentanément de Coqueluchon, son accompagnateur ordinaire. Mais pouvait-il refuser de sauver la vie à Dumollet en lui évitant 32 dégringolades de diligence entre Paris et Saint-Malo? Non, il ne le pouvait pas. Coqueluchon, d'ailleurs, semblait avoir compris et se tenait les oreilles dressées devant Dumollet. Ce brave Baudet, encore dans la fleur de la jeunesse, désirait évidemment courir le monde, connaître la vie, étudier les mœurs des ânes, plus ou moins civilisés, peuplant le vaste univers que du haut du pic Montmartre l'œil voyait se dérouler verdoyant et majestueux. Coqueluchon, âne romanesque, avait soif d'aventure. Chapitre 2. Le Baudet Coqueluchon et sa coupable conduite au déjeuner de la noce Cloquebert. Et c'est ainsi que, par un beau matin de la mi-mai, Dumollet et Coqueluchon se mirent en route pour Saint-Malo. Coqueluchon, amené la veille de Montmartre, avait couché en ville, non pas chez Dumollet, mais sous l'escalier de Dumollet, le concierge de la maison ayant refusé l'autocrate de permettre au brave Coqueluchon de monter les trois étages de Dumollet. Comme si un âne montagnard de Montmartre n'était pas habitué à de plus rudes ascensions. Portier, avait gémi Dumollet, vous ne pouvez pas m'empêcher de recevoir mes amis. Coqueluchon n'est pas un âne, c'est un véritable ami. Mais quand même, ce serait votre frère, dit le portier, il ne passera pas. Et Coqueluchon n'avait pas passé. Il était 11 heures du matin. Dumollet suivait les boulevards, monté sur Coqueluchon, la poitrine dilatée et aspirant de bonnes bouffées de grand air. Vêtu d'un habit de gourgouron, d'un gilet de poil de chèvre et d'une culotte de casimir, coiffé d'un chapeau bolipaille, Dumollet se sentait à l'aise. Il emportait peu de bagages, simplement. Le strict nécessaire, sa flûte, quelques linges, la miniature d'Estelle, un parapluie et un pistolet. Bien entendu, par crainte des accidents, pas de poudre ni de balles. Ses amis, très émus, lui firent un bout de conduite jusqu'à Passy, et naturellement déjeunèrent longuement et confortablement avec lui avant de franchir la barrière. Le moment de la séparation approchait. Déjà les arbres de la vraie campagne verdoyaient par-delà les dernières maisons. Dumollet et Coqueluchon sentaient l'émotion se glisser dans leur cœur. Coqueluchon aspirait joyeusement l'air. Dumollet, pour se donner du courage, regardait la miniature d'Estelle. Son vaillant ami du croquet, commis en nouveauté, plein d'avenir, faisait siffler sa badine et sonnait fièrement ses éperons pour insuffler à l'âme de Dumollet un peu de cette fermeté qui lui manquait. Allô, bon courage et bonne chance, clamait-il en abattant avec sa canne une botte de coquelicot, et revenez-nous bientôt avec la charmante madame Dumollet. Et avec Coqueluchon, dit monsieur Florival. La barrière était franchie. Dumollet arrêta Coqueluchon pour distribuer des poignées de main à ses amis. Allô, messieurs, dit du Croquet, poète à 16 heures. Le couplet d'adieu improvisé en l'honneur de notre ami. En cœur, messieurs. Bon voyage, cher Dumollet. À Saint-Malo débarqué sans naufrage. Bon voyage, cher Dumollet. Graissez vos bottes et montez à Baudet. Juste à ce moment, l'énorme diligence dédaignée par Dumollet, un vrai mastodonte de voiture lourde, épaisse, ventrue, peinte en jaune avec une haute bâche de cuir gonflée et de malles en haut, des voyageurs à toutes les fenêtres, des voyageurs partout, sur l'impériale et jusque sous la bâche, avec son conducteur armé d'un grand fouet, avec son postillon en petite veste, les jambes perdues dans d'énormes bottes, fit trembler le pavé du roi en route pour Saint-Malo avec ses 16 dégringolades en perspective. C'était l'ennemi. Dumollet rangea vivement son âne. Le postillon fit claquer son fouet, le conducteur emboucha sa trompette et les voyageurs, ricanant, entonnèrent avec une ironie évidemment malveillante la chanson des amis de Dumollet. Bon voyage, monsieur Dumollet! Le brave Dumollet se contenta de les regarder tous avec commisération. Il serra une dernière fois les mains de ses trois amis et, donnant avec son parapluie une tape légère à Coqueluchon, il piqua courageusement des deux sur les traces de la diligence, pendant que ses amis agitaient leurs mouchoirs et reprenaient, accompagnés en chœur par les commis de l'octroi et quelques maraîchers, leur refrain amical « Bon voyage, monsieur Dumollet !» Dumollet était parti. Lui-même, mis en gaieté, sifflotait aux oreilles de Coqueluchon l'air composé en son honneur et faisait tournoyer son parapluie avec une crânerie inspirée par l'air pur et le grand soleil. Coqueluchon trottait. Bientôt, il eut dépassé les dernières maisons de Passy et les futaies du bois de Boulogne s'alignèrent des deux côtés de la route. C'était bien la grande nature, le commencement de ces vastes horizons entrevus. Coqueluchon poussa des hi-hans de joie et commença à tourner l'œil, alternativement vers la gauche et la droite de la route, où des chardons savoureux dressaient sur leur talus leurs têtes chevelues. Dumollet sifflait toujours. Commencement de voyage délicieux. Peut-être à 7 heures, la diligence de Saint-Malo avait-elle confectionné une de ses premières omelettes de voyageurs. Dumollet, heureux de se sentir à l'abri de ses capilotades, prit un petit sentier qui longeait sous bois la route et permit à Coqueluchon de savourer à l'aise les touffes de chardon et les menus verdures. On approchait du pont de Sèvres. Avant de sortir du bois, Dumollet résolut de faire une petite halte à l'ombre. Il se laissa glisser en bas de sa monture et s'allongea dans l'herbe en invitant Coqueluchon à en faire autant. L'herbe était molle et elle sentait bon. Un parfum délicieux mais compliqué où il y avait du thym, de la fraise, de la violette et quelques vagues effluves de pâté de foie truffé. Oui, vraiment, ça sentait le pâté de foie truffé. Dumollet chercha vainement de l'œil et du nez la fleur étrange qui dégageait ce parfum, pour le moins aussi agréable que la simple violette. Puis, comme il était poète, les fleurs lui firent penser à sa fiancée et il se mit immédiatement à composer un acrostiche sur le joli nom d'Estelle. L'inspiration ne se montra pas rebelle. Les plus jolies rimes vinrent toutes seules avec une telle facilité que Dumollet s'endormit. Combien de temps dormit-il de ce poétique sommeil? À peine un petit quart d'heure s'était écoulé, lorsque brutalement, des hi-hans désespérés le réveillèrent. C'était Coqueluchon qui appelait à l'aide. Dumollet bondit et chercha autour de lui son compagnon de voyage. Il avait disparu. Cependant, de nouveaux hi-hans, sortant d'un fourré à quelque distance, éclatèrent comme des appels de trompettes enrouées. Coqueluchon était en détresse, c'était certain. Aussi Dumollet, oubliant ses rimes, n'écoutant que sa valeur, se précipita dans les broussailles. Un étrange spectacle l'attendait. Au centre d'une clairière, s'agitait une nombreuse compagnie de messieurs en habits bleus, marrons ou jonquilles, et en jabot de cérémonie, de dames et de demoiselles en robe blanche, rose, bleue, réséda ou bouton d'or, d'enfants en grande toilette, parmi lesquels plusieurs habillés en artilleurs ou en lanciers polonais, et au beau milieu de tout ce monde, l'infortuné Coqueluchon se débattait dans la plus triste des situations. La tête enfoncée dans un grand panier d'osier, le couvercle du panier rabattu sur sa tête et solidement maintenu par le genou d'un robuste gaillard, il avait piteuse mine, le pauvre bourriquet, et clamait de tristes lamentations sous les coups de canne, d'ombrelle et de parapluie que toute la compagnie, même les petits artilleurs, lui offrait généreusement. L'apparition de Dumollet suspendit un peu la distribution. « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria Dumollet, debout, les bras croisés au milieu des bourreaux de son compagnon. « Mais de quelle loi attaquez-vous l'inoffensif Coqueluchon ?»« Comment de quel droit ?» fit un monsieur en habit bleu à boutons d'argent. « Mais de quel droit votre féroce et impudent Brodet attaque-t-il nos pâtés victuailles. Vos pâtés? Balbutia Dumollet, dont le nez humait très nettement cette fois ces effluves de violettes au foie gras qui tout à l'heure avaient mis en défaut sa science botanique. Parbleu, oui, nos pâtés, dit le monsieur. Comment, moi, Nepomucène Croquemère, notable commerçant, je me marie ce matin avec mademoiselle de Sainte-Guillemette, j'amène ma noce au bois de Boulogne avec tout ce qu'il faut pour déjeuner sur l'herbe, du jambonneau et du pâté, du bordeaux, du bon Bourgogne, de la comète. Et tout cela, pour que pendant que nous cherchons une belle place pour la nappe, votre intrigante Baudet se permette de nous massacrer nos provisions, d'éventrer notre pâté et d'avaler un magnifique fromage à la crème. Est-ce qu'il était invité, votre Baudet? Oh, monsieur, dit Dumollet, je suis confus, croyez bien, c'est la première fois que Coqueluchon se conduit pareillement, jamais, je vous jure, Coqueluchon n'a rien fait de semblable. Jusqu'à ce jour, il s'est conduit avec la plus grande discrétion. Monsieur votre âne s'est conduit comme une bête féroce vis-à-vis de notre pâté. Je vous présente des excuses et les miennes. En attendant, notre déjeuner est perdu. La cérémonie nous a creusé tous outre mesure, il va falloir que nous attendions le dîner à jeun. À ces mots, un ouragan de cris s'éleva parmi les gens de la noce. Les messieurs, les dames et les demoiselles brandirent canne, parapluie et ombrelle avec des gestes furibonds. Et Coqueluchon se reprit à gémir. Bousculé par deux garçons d'honneur, Coqueluchon, tout à coup, s'assit ou plutôt s'écroula dans le panier aux victuailles, et l'on entendit un épouvantable bruit de bouteilles cassées. Oh, cette fois, c'était le comble, l'abomination de la désolation. Les dames poussèrent des cris aigus et se sauvèrent, la mariée s'évanouit. « Ma pauvre fille !» gémit une grosse dame en robe jonquille. « Ah, tu peux le dire. Je t'avais prévenu. Voilà les désagréments du mariage qui commencent. »« Mais, belle maman !» essaya de dire le mari. « Tenez-vous, monsieur. C'est vous qui nous avez amenés dans un endroit si mal fréquenté pour faire assassiner notre déjeuner. Je défaille d'inanition. Ça vous plaît que je défaille ? Ah, je reconnais bien là les procédés d'un gendre. » Les garçons d'honneur, de plus en plus furieux, tenaient vigoureusement Coqueluchon et s'apprêtaient à reprendre la contredanse à coups de canne. « Attendez !» dit un gros invité à moustache d'ancien militaire. « Il a touché au liquide, il sera puni par les liquides. Tiens, brigand, avale-moi ça pour faire passer le pâté, et encore ça !» Et le gros invité vida prestement dans le gosier de Coqueluchon deux bouteilles de vin blanc dont les goulots étaient cassés. « Mais grâce !» s'écria Dumollet en se pendant au cou de Coqueluchon. « Laissez-le, je paierai le dommage. » Une grêle de coups de canne tomba pour toute réponse sur l'échine de Coqueluchon, qui, l'œil hagard, les oreilles droites, les crins hérissés, renversa l'un des garçons d'honneur et piqua une tête dans le fourré en emportant Dumollet cramponné à son cou. « Ah, j'ai médit des diligences !» pensa très amèrement Dumollet, suffoqué par la course et par sa position bizarre sous l'encolure de Coqueluchon. « Me voici presque dans la position de Mazeppa. Oh, ciel, mais comme ai-je besoin de songer à me marier ? Comme j'ai été imprudent ! Voyons, Coqueluchon, mon petit Luchon, arrête-toi, je ne ferai pas de reproche pour le pâté !» Coqueluchon n'entendait rien et galopait toujours. « Grand Dieu !» se reprit à gémir Dumollet. « Il ne m'entend pas, il est gris, le malheureux, complètement gris. Lui si doux et si obéissant d'ordinaire, la crème des ânes. Horrible situation, emporté par un âne en ribote. Bon, ça serait pire que celui de Mazeppa, le coursier de Mazeppa n'était que sauvage. Le mien est en ribote. » Cependant, les fourrés du bois commençaient à s'éclaircir. On devait approcher de la grande route et Coqueluchon ne s'arrêtait pas. De temps en temps, pensant au coup de bâton ou travaillé par le vin blanc, il poussait un « hi-han » formidable et ruait contre les ennemis imaginaires. Et l'infortuné du Mollet était obligé de se cramponner plus fortement à ses crins rouges. À un bout de force, il faillit pourtant se laisser choir lorsque Coqueluchon sauta dans le fossé de la grande route. Mais la pensée que peut-être la noce s'était mise à sa poursuite, lui donnant un surcroît d'énergie, il réussit à se mettre tant bien que mal en selle. Juste à ce moment, le coucou de Saint-Cloud croisa le malheureux cavalier. Amère dérision! Le ridicule et poussiéreux véhicule était chargé de jeunes godelureaux qui chantaient en chœur le refrain composé le matin même pour le maître de Coqueluchon et déjà popularisé par les voyageurs de la diligence de Saint-Malo. « Bon voyage, monsieur Dumollet !» Chapitre 3. Monsieur le sous-préfet Corniflet de Saint-Amarante. Les heures suivaient les heures, les kilomètres succédaient aux kilomètres, et Coqueluchon galopait toujours. Quelle vigueur dans le jarret de ce montagnard de Montmartre, de ce vétéran des promenades de Montmorency! 20 fois, 100 fois déjà, Dumollet avait supplié Coqueluchon de daigner s'arrêter. La noce Coquelebert n'était plus à craindre, elle devait être à table depuis longtemps pour le dîner. Mais Coqueluchon ne voulait rien entendre. Jusqu'à ce jour, à part quelques petites débauches de foin et de chardon, il avait été la sobriété même. Mais ces deux bouteilles de vin blanc, les premières de sa vie, lui dérangeaient tout à fait le système nerveux. Dans les villages, l'apparition de ce voyageur fantastique jetait l'émoi parmi les populations. Déjà, plusieurs gardes champêtres soupçonneux avaient eu l'attention de lui demander ses papiers. Mais Coqueluchon, par un bond de côté, s'était dérobé aux questions de l'autorité. Le crépuscule était venu, puis le soir, puis la nuit. Le paysage bleu d'abord, puis jaune, puis rouge, passait au noir pur, au noir intense. Le soleil s'était couché, la lune s'était levée, les étoiles aussi, sans arrêter Coqueluchon dans sa course. Dumollet, effrayé d'abord, puis épouvanté, se demandait maintenant s'il s'arrêterait jamais. Coqueluchon, sans doute, ne sentait pas la faim. Le déjeuner de la noce Cloquevert lui suffisait. Le vin le soutenait. Mais hélas, l'appétit de Dumollet, surexcité par la course, réclamait impérieusement de prompt secours. L'heure solennelle du dîner était depuis longtemps passée, et une profonde mélancolie envahissait l'âme du pauvre cavalier. Au bout de la route noire, des lumières scintillèrent en notable quantité. Une villa, c'était une ville, oh, Coqueluchon s'arrêterait peut-être. Dumollet, pâlissant, essaya de tirer sur la bride aux premières maisons. Mais Coqueluchon, sans broncher, enfila une interminable rue du Faubourg. En relevant la tête, Dumollet put apercevoir d'alléchantes enseignes d'auberges et par les fenêtres illuminées des tables d'hôtes nombreuses et bien garnies. Le soleil d'or, le lion d'argent, le cœur volant, le cheval blanc, etc., etc. Sort cruel, supplice de Tantale. L'enragé Coqueluchon refusait de s'arrêter, malgré les objurgations, les supplications, les menaces, même de son ami affamé. Il prit la grande rue, passa devant de vagues monuments, s'enfonça dans des rues sombres, se perdit dans des ruelles, parcourut une longue ligne de boulevards plantés d'ormes vénérables, trotta le long d'un quai, mais ne s'arrêta nulle part. À la mairie, un poste de garde national veillait sur la sécurité des habitants. Le factionnaire croisa en vain la baïonnette au cri de Dumollet. Coqueluchon ne se rendit pas et continua sa route. Tout à coup, au bout d'une rue noire, une grande bâtisse parut, très éclairée et répandant par toutes ses croisées ouvertes de véritables flots d'harmonie. La musique parut impressionner Coqueluchon. Nous croyons l'avoir dit, cet âne était un véritable artiste. Il dressa les oreilles et se dirigea droit sur la maison illuminée. Le cœur de Dumollet battit. Coqueluchon allait-il s'arrêter enfin? Devant la grille grande ouverte, Dumollet se raidit désespérément sur la bride pour essayer d'arrêter Coqueluchon. Mais celui-ci, sans s'inquiéter de la discrétion, traversa une grande cour, franchit les trois marches d'un perron, et se trouva soudain dans un vestibule somptueux, devant trois grands laquais en livrée jaune, stupéfaits de son audace. Des mélodies à torrents s'échappaient des portes entr'ouvertes. Coqueluchon, l'air très satisfait, passa devant les laquais, en bouscula un qui croyait l'arrêter en lui présentant un plateau chargé de liqueurs fines, et poussant une porte du bout du nez, pénétra au petit trot dans un immense salon illuminé où tout ce que la société élégante, officielle et administrative de la ville présentait de plus étincelant en messieurs de 18 à 75 ans, en dames et en demoiselles de 16 ans à un âge indéterminé, se délectait jusqu'au fond de l'âme à l'audition d'une ravissante romance due à la lyre d'une jeune procureure du roi. À l'apparition des oreilles de Coqueluchon par-dessus les têtes attentives de ses auditeurs, le poète effaré s'arrêta brusquement. Coqueluchon fit autant, planté au milieu du salon, regardant avec effronterie les beaux messieurs et les belles dames, il ouvrit une énorme bouche et se mit longuement et joyeusement à braire. La foudre elle-même ou l'arrivée d'un boulet de canon eût peut-être produit moins d'effet que ce premier formidable hi-han. Les dames et les demoiselles s'évanouirent pour la plupart. Au centre du salon, devant le poète, trois ou quatre jeunes personnes des plus considérables familles de la ville tombèrent presque en tas les unes sur les autres. Sur tous les fauteuils, sur tous les canapés, il y en eut d'autres à qui des maris ou des pères firent respirer des sels ou des vinaigres. L'effroi causa même le vanouissement d'une femme de chambre et d'un sommelier sentimental qui écoutait la romance dans un couloir. Heureusement, tous les médecins de la ville étaient là, empressés à prodiguer leurs soins. Cependant, Coqueluchon ne se taisait pas, et Dumollet, épouvanté de l'esclandre, restait cloué sur sa selle. Un monsieur en culotte courte de basin blanc se planta devant lui et saisit la bride de Coqueluchon. « Pouvez-vous me dire ce que signifie ceci, monsieur ? » proféra-t-il, rouge de colère. « Et qui vous a donné, à vous et à votre âne, l'incroyable audace de pénétrer avec violence et presque avec effraction dans les salons de la sous-préfecture ? Pouvez-vous le dire, monsieur ?»« Monsieur ?» balbutia Dumollet. « Dites monsieur le sous-préfet. » « Monsieur le sous-préfet, mais c'est purement accidentel. Deux bouteilles de vin blanc avalées par accident. »« Mais taisez-vous, c'est ignoble. Je vais vous faire mettre au violon pour vous apprendre à venir troubler la soirée de la sous-préfecture. »« Mais le vin blanc et la musique, c'est à cause de la musique, monsieur le sous-préfet, que Coqueluchon. »« La musique, vous êtes le musicien que j'ai fait venir de Paris ?» et dont l'absence vous empêchait de commencer le bal ? Votre contrebasse est là ?
Ma contrebasse, mais quelle contrebasse ? Fit Dumollet très ahuri.
Bien la vôtre, parbleu, on l'a tout à l'heure apporté du soleil d'or. Je vous envoyais chercher, et l'on m'a dit que vous étiez encore à table à boire avec des commis voyageurs.
Moi ? Dit Dumollet.
Ben sans doute, vous, mais savez-vous ou non, le contrebassiste parisien que mon orchestre attend pour commencer. Si vous ne l'êtes pas, je fais venir la gendarmerie.
Non, 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 s'écria Dumollet, je suis le contrebassiste.
Vous avez un peu bu au soleil d'or, c'est honteux pour un artiste, mais je consens à vous pardonner si vous êtes en état de jouer. Êtes-vous en état de tenir votre archet?
Oh, oui, oui. Eh bien alors, donnez votre ridicule monture au domestique. Je suis trop bon, on va vous l'attacher dans la cour. Et prenez votre instrument. Tout de suite, monsieur le sous-préfet. Et Dumollet, profitant de la tranquillité de Coqueluchon, qui regardait les dames sans aucune timidité, tout à fait comme une personne du vrai monde, se mit en devoir de quitter la salle. Hélas, les jambes du pauvre cavalier, harassées par tant d'heures de course folle, flageolèrent sous lui, et il faillit s'évanouir à son tour comme les dames. Mais le sous-préfet rageur ne le lui permit pas. Prenez garde à vous, si vous êtes trop gris, monsieur de la contrebasse, je vous envoie au violon. Je suis solide, monsieur le sous-préfet, gémit Dumollet. Allons à votre pupitre, et les morceaux de musique que l'on vous avait prié d'apporter, les valses nouvelles, les scottiges du jour. Je les ai oubliés, monsieur le sous-préfet. Le sous-préfet haussa les épaules. J'ai entendu ce matin, dit-il, les voyageurs de la diligence chanter un air qui paraît-il fait fureur à Paris, un air très gai. Bon voyage, monsieur Dumollet. Oh, je ne le connais pas, monsieur le sous-préfet. Bon, alors, à votre pupitre, nous nous contenterons de ce que nous avons. Chapitre 4. Élégances et suavités du bal de la sous-préfecture. Madame Céliane Corniflet de Saint-Amarante, l'élégante sous-préfète, suave comme un lys et rêveuse comme une pervenche, faisait les honneurs de ses salons avec une grâce tout à fait enchanteresse. Un peu avant l'arrivée de Coqueluchon, elle avait ravi l'assemblée par son talent véritablement céleste sur la harpe et transportait les âmes de ses auditeurs dans les régions les plus éthérées. Maintenant, elle ouvrait le bal avec M. le chevalier de la Pinchardière, l'homme le plus considérable de la ville, un peu desséché peut-être, mais en possession des vieilles traditions de l'Ancien Régime, et par cela même susceptible d'obtenir encore des succès de salon. Coup d'œil ravissant. Les dames de la ville, habillées à la dernière mode par les célèbres couturières et modistes de Paris, semblait une collection des plus récentes gravures du journal Le Bon Ton. Dumollet ne prenait guère la peine de les regarder. Le malheureux, toujours de plus en plus affamé, s'escrimait le plus adroitement possible sur sa contrebasse pour ne pas réveiller les soupçons de monsieur le sous-préfet, et bien qu'il n'eût jamais de sa vie essayé de cet instrument. Tout entier à ses malheurs, il n'avait pas un regard pour le bal. Et pourtant, les invités de monsieur le sous-préfet, la fleur de la fashion, valaient la peine d'être admirés. Les dames resplendissaient. Ce n'étaient que robes de tulle, de gaze, de gros de Naples, des plus exquises couleurs, jupes ornées diversement de volants, de bouillonnets, de pointes, de bouquets, de rubans, corsages décolletés en rond, en carré, en pointe, en cœur, en biais, garnis de blondes, de tulle, de fleurs, de collerettes, de chaînes, avec des rouleaux de satin plus ou moins volumineux aux épaules, le commencement des manches à gigot. À côté des dames, d'un âge sérieux ou mi-sérieux, couronnées de majestueux turbans ou de grandes toques empanachées de marabouts, les jeunes personnes semblaient à juste titre un vrai parterre. Roses, jasmin, tulipes, lys se balançaient sur leurs coiffures comme agitées par une brise follette, à un demi-pied au-dessus des coques, des frissures, des nattes et des tire-bouchons relevés en gracieux et fantastiques édifices. Un vrai jardin, monsieur le receveur des contributions l'avait dit, et embaumé comme une serre. Les hommes, moins éblouissants peut-être, n'étaient pas moins distingués, avec leurs fracs à boutons d'or, leurs culottes courtes ou leurs pantalons de casimir collant, serrés sur des bas de soie à fleurs, et dessinant le mollet, ce mollet masculin qui a si complètement disparu de nos jours. Pauvre du mollet, en proie à la famine, toutes ses grâces et toutes ses élégances étaient perdues pour lui. Il cherchait à se tirer, tant bien que mal, des gavottes, des valses, des redevats, des cracoviennes jouées par ses compagnons de l'orchestre et dansées par la brillante société. Malgré sa bonne volonté, il se montrait sur la contrebasse d'une faiblesse insigne et faisait à tout moment froncer les augustes sourcils de monsieur le sous-préfet. Sans madame Céliane, il eût peut-être bien tout de même goûté du violon. Mais madame la sous-préfète, aussi bonne que belle, intercéda pour lui chaque fois qu'un couac trop prononcé vint effleurer les oreilles musicales de son mari. Pauvre du mollet, tantôt allongé sur son instrument, il semblait s'endormir, et tantôt, se réveillant sursaut, il faisait grincer les cordes avec fureur en suivant d'un œil égaré les notes de sa partie de contrebasse. À plusieurs reprises, les musiciens furent largement rafraîchis, mais le sous-préfet avait donné l'ordre de ne pas lui laisser avaler une goutte de vin. Tout ce qu'il put obtenir dans toute sa nuit, ce fut dans un moment de repos, quelques sorbets qui ne calmèrent nullement son appétit. « Cela le rafraîchira, » avait dit le sous-préfet. Triste nourriture pour un homme qui n'avait rien pris depuis le repas de midi à la barrière de Passy. Enfin, le supplice de Dumollet prit fin à 3 heures du matin. Les danses s'arrêtèrent et l'une après l'autre, les belles danseuses s'éclipsèrent. La noble compagnie regagnait ses foyers, en voiture ou à pied, ou même en vinaigrette, espèce de chaise à porteurs montée sur roues, traînée par un homme et poussée par un autre, un véhicule délicieux, inconnu aux générations actuelles, que la vapeur ne satisfait même plus, et qui cherche le moyen d'atteler l'électricité, la foudre et les éclairs. Les musiciens s'en allaient aussi. Dumollet s'apprêtait à disparaître sans bruit pour ne pas attirer l'attention de monsieur le sous-préfet, lorsque le vigilant fonctionnaire vint droit à lui. « Tenez, » dit-il en lui mettant un écu de 6 livres dans la main, « voici vos 6 francs. Oh, vous ne les avez pas gagnés. Vous avez joué comme une simple mazette et vous pouvez être tranquille. À ma prochaine soirée, je me passerai de vous. Allez, maroufle, débarrassez les salons officiels de votre présence. » Dumollet baissa la tête et se dirigea vers la porte. « Et votre instrument ? » s'écria le sous-préfet. « Quel instrument ? » dit humblement Dumollet. « Ben, votre contrebasse ! Comment, vous n'êtes pas dégrisé encore, mais c'est honteux ! Oh, si je m'écoutais, je... »« Mon ami !» fit madame Céliane Corniflet de Saint-Amarante. Soit, bon, je serai clément, emportez votre contrebasse et vivement. » Dumollet n'osa pas résister et, poussant fort ce soupir, mit l'énorme instrument sur son dos. « Mais toutes les calamités !» se disait-il. « Mais tous les malheurs ! Ce matin, avec l'Alos Klockberg, j'ai été indélicat. Maintenant, je suis un voleur. Je vole une contrebasse. » Tout entier à son chagrin, il oubliait presque Coqueluchon. Dans la cour de la sous-préfecture, un hihan, morne et triste, lui rappela son compagnon de voyage qu'un laquais sans armes mettait à la porte un coup de balai. Les deux amis se retrouvèrent dans la rue, sous le réverbère pendu devant la sous-préfecture. S'ils ne tombèrent pas dans les bras l'un de l'autre, ce fut seulement parce que Coqueluchon n'en avait pas, et parce que ceux de Dumollet étaient occupés à charrier une contrebasse. Ils se contentèrent de se regarder avec des yeux lamentables, en soupirant tous deux. « Allons, partons, fuyons !» dit enfin Dumollet. « Il est 3 heures du matin. Cherchons l'auberge tranquille pour nous reposer de nos fatigues. » Il essaya de monter sur Coqueluchon, mais la contrebasse le gênait considérablement.
Cette contrebassée, lui, ne pouvait tenir sur l'échine du pauvre Bonnet. Embarras lamentable. S'il la laissait à terre au milieu de la rue, les malintentionnés pouvaient s'en emparer ou le détériorer. Son intention était pourtant de l'emporter avec lui à l'auberge pour la renvoyer le lendemain, monsieur le sous-préfet, mais comment la traîner jusque-là? Pour comble de malheur, l'objet paraissait offusqué Coqueluchon. Il baissait les oreilles et regardait la contrebasse d'un air défiant, en se demandant sans doute si cette boîte étrange ne recelait pas dans ses flancs de nouveaux malheurs. Dumollet leva les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin de son infortune. Le réverbère qu'il aperçut lui suggéra une de ces idées véritablement lumineuses qui viennent aux hommes supérieurs dans les circonstances critiques. Prudemment, Dumollet jeta un regard autour de lui. Les lumières de la sous-préfecture étaient éteintes, la grille était fermée, il n'y avait personne, ils étaient seuls, Coqueluchon, la contrebasse, le réverbère et lui, seuls dans la nuit profonde. Posant délicatement l'instrument fatal sur le pavé, Dumollet tira son couteau et courut à la boîte de tôle où aboutissaient les cordes du réverbère. D'un coup de couteau porté avec une force et une énergie doublées par le sentiment du danger, Dumollet opéra l'effraction de la boîte. La corde était là, Dumollet n'eut qu'à l'enlever du crochet, et immédiatement le réverbère descendit à terre avec un grincement de poulie qui fit passer un frisson dans le dos du criminel. Dumollet saisit la corde, fit un nœud coulant à côté du réverbère et passa dedans la crosse de la contrebasse. Cela fait, il n'y avait plus qu'à hisser le tout. Dumollet, avec mille précautions, tira sur la corde, le réverbère et la contrebasse, s'entrechoquant quelque peu, montèrent lentement dans le ciel. Rien n'avait bougé à la sous-préfecture ou dans les maisons environnantes. Dumollet passa un soupir de joie et de soulagement. Il n'était donc plus un voleur. Il pouvait encore marcher la tête haute dans la société. En un clin d'œil, il fut sur Coqueluchon, et tous deux s'en allèrent au petit trot à la recherche d'un logis pour le reste de la nuit.